Le journal présenté par Marceline Michon.
Bonsoir. Les investissements pour le rail en Suisse romande seront-ils suffisants ces prochaines années? Les inquiétudes se font sentir alors que le budget est dépassé de plusieurs milliards de francs. Vous prendrez bien une part de couronne des rois provençales, spécialité du sud de la France. Une famille jurassienne a remporté le concours de la meilleure couronne au nez et à la barbe des locaux. C'est le grand espoir du billard régional. À 18 ans, Jonas Ugolini entame les championnats de Suisse junior. En Valais, il vise pas moins de 4 médailles d'or. Il faudra prendre de la hauteur cette nuit pour voir les étoiles. La grisaille va dominer en plaine. Le week-end sera ensoleillé et frais. La Confédération se serre la ceinture et le transport régional de voyageurs devrait aussi en faire les frais. Selon la consultation sur le crédit d'engagement pour la période 2026-2028, les entreprises de transport public pourraient ne pas obtenir l'enveloppe espérée. La mise en œuvre de l'offre ferroviaire 2035 affiche un dépassement de 14 milliards de francs. Westrail, qui a tenu son colloque aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds, fait part de son inquiétude pour l'avenir du rail en Suisse romande. L'association demande une contre-expertise. Explications avec son président, le Neuchâtelois Damien Cottier.
Oui, il faut qu'on aille vraiment regarder dans le détail de ces chiffres. C'est quand même pas normal que les estimations aient doublé. Pour des projets ferroviaires, on voit une augmentation des prix depuis 20 ans avec des chiffres qui sont parfois x4, x5, x6. Et il faut vraiment véritablement qu'on aille voir, un, si les chiffres sont solides, si les estimations sont les bonnes ou si les prix ont été au fond gonflés, peut-être par prudence. Et deuxièmement, il faut qu'on aille voir les processus pour voir si les processus actuels, les normes légales, les normes qui sont aussi ajoutées au niveau technique de plus en plus sur les projets, ne renchérissent pas excessivement les coûts des travaux. Puis finalement, on veut faire le luxe du luxe, mais on peut plus le payer. Et ça, c'est véritablement quelque chose sur lequel on doit travailler.
Et pour répondre à ces finances fédérales en souffrance, l'UDC présente ses solutions. Le parti a livré ses recettes aujourd'hui à Berne. Pour assainir les finances fédérales, il faut consacrer les moyens à disposition aux Suisses et aux domaines de l'armée et de l'agriculture d'abord. Et surtout stopper l'explosion des dépenses dans d'autres domaines. Le conseiller national UDC jurassien Thomas Stettler, membre de la commission des finances, détaille les domaines où il souhaite sabrer.
On a l'administration qui gonfle complètement, ça dérape. C'est un système additionnel où on ne se remet pas en question. L'administration a un accroissement beaucoup plus grand que l'accroissement économique suisse. On doit absolument freiner ça. La population suisse est laissée pour compte. C'est le sentiment qui est là. Et c'est vrai qu'en quelques heures, on ficelle des paquets pour l'Ukraine, on organise des choses pour l'asile. Les gens se disent, non mais d'abord, on aimerait qu'on s'occupe des Suisses ici, enfin des gens qui habitent ce pays, parce qu'on a des soucis, on a des infrastructures à maintenir et tout ça. Et ça, c'est essentiel. Avant de vouloir sauver le monde, on a des possibilités d'aider à l'extérieur, mais elles ne sont pas infinies.
Le Parlement débattra du budget 2025 de la Confédération en session à partir de lundi. Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres. La cathédrale restaurée a été dévoilée aujourd'hui pour la première fois depuis l'incendie de 2019. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu sur les lieux pour une ultime visite du chantier. Les causes de l'incendie n'ont toujours pas été élucidées. Ce monument compte parmi les plus visités en Europe. La nouvelle déléguée à l'égalité du canton du Jura s'apprête à entrer en piste. Leïla Hanini prendra ses fonctions lundi. L'habitante de Moutier a été nommée pour succéder à Angela Fleury, celle qui s'est beaucoup investie ces dernières années comme militante, notamment pour la cause féministe, estime pouvoir endosser cette nouvelle casquette institutionnelle. Leïla Hanini.
Je peux comprendre, mais voilà, j'ai eu l'habitude d'avoir différents rôles dans ma vie. Ici, j'entre effectivement dans une nouvelle fonction, donc une fonction institutionnelle. Mais j'ai aussi été préparée pour ça, puisque j'ai aussi fait un master en sciences politiques. Donc je crois que voilà, je suis aussi prête à endosser ce rôle. Je connais parfaitement l'État de tous les côtés possibles, autant le pouvoir exécutif que le législatif, que l'administration. Et je pense qu'au contraire, ça peut apporter quelque chose de connaître aussi tous ces rouages.
Vous aurez aussi peut-être un rôle un petit peu d'arbitre pour tempérer un petit peu les débats entre les différents partis. On parle peut-être de la grève des femmes, des hommes, etc. Est-ce que vous avez aussi ce rôle d'arbitre à jouer en tant que délégué à l'égalité?
Je ne crois pas que ça soit un rôle d'arbitre. C'est un rôle, finalement, comme chaque membre de l'administration, d'écouter la population. Et la population, c'est au sens large. Effectivement, ça peut être les avis des partis politiques, mais les avis aussi des gens. Et puis, l'idée, c'est de composer avec tous ces avis différents et d'apporter des solutions consensuelles.
Leïla Hanini répondait à Loïc Georgi. Retrouvez l'entretien complet sur rfj.ch. Une famille jurassienne de pâtissiers-confiseurs nommée Reine de la Couronne des Rois Provençales. Elle a remporté la semaine dernière à Toulon le concours de ce gâteau traditionnel en pâte à brioche ornée de fruits confits. Léo, Cyril et Magali Marzolo, établis en Provence depuis 5 ans, ont pu se reposer sur une longue expérience acquise dans le Jura. L'entreprise familiale a survolé le concours. Selon Léo Marzolo, le terroir jurassien n'est pas étranger à ce succès.
Ah, bien sûr, ouais. Le côté un peu rigueur suisse, comme on nous le dit souvent ici, je pense qu'il y a joué beaucoup. On a des apprentissages assez performants en Suisse et puis ça nous aide à nous démarquer. C'est vrai que mon père avait déjà fait son apprentissage en confiserie chez Burki à Moutier à l'époque. Ma mère a été vendeuse en boulangerie chez Kempf pendant 10 ans pour Antruy. Et puis moi, j'ai fait mon apprentissage au moulin à Dlémont. Et puis là, on a ouvert en famille, quoi.
À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence dans votre couronne? Qu'est-ce qui fait qu'une couronne est meilleure qu'une autre?
Eh bien, je pense que ouais, les fruits confits ont beaucoup joué parce qu'on a pris des fruits confits de qualité, alors que beaucoup mettent des melons un peu bas de gamme, on va dire. Et puis ben aussi le placement des fruits, tout la finition était appliquée et je pense que ça y a joué. Il y avait des juges meilleurs ouvriers de France, chef d'hôtel 5 étoiles et autres personnalités. Et puis ben on a réussi à finir premier, donc pas peu fier pour des petits Suisses.
Des propos recueillis par Marinelle Mittemperger. Le Jura bernois se mobilise pour une tradition agricole ancestrale. En juillet dernier, une tramelotte accusait dans le Blic sa commune de ne rien faire contre les feux agricoles illégaux. Les autorités forestières ont récemment procédé à des ajustements réglementaires et ces feux sont désormais nettement plus encadrés. Selon la Chambre d'agriculture du Jura bernois, ce sont les agriculteurs qui en payent le prix. Une pétition est donc lancée. Daniela Alemann-Gerber, secrétaire générale de la Chambre, évoque les revendications.
Ces feux de nettoyage, c'est un outil indispensable aussi pour les agriculteurs. Et jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Et ce qui est aussi important, ce qu'il ne faut aussi pas négliger, c'est pour la santé aussi du bétail. Parce qu'on ne peut pas simplement laisser des tas de bois comme la division forestière pourrait faire croire. Justement, pour la santé, ça pourrait être dangereux. Le bétail bovin pourrait avoir des panaries. Aussi, tout ce qui est accident avec les tétines. Et il faut s'imaginer toutes ces branches, tout ce qui traîne. Et aussi, ce qui est important, ces pâturages boisés, en quelque sorte, ont quand même été mis comme ça à l'agriculteur qui devait les gérer. Et s'ils ne sont pas nettoyés correctement, il y a aussi des restrictions dans les paiements directs.
Dans le Jura, les feux agricoles sont aussi interdits selon une loi fédérale, mais des exceptions existent. Les communes font autorité. Le harcèlement scolaire est un fléau. Selon l'enquête PISA, près de 20% des enfants de 15 ans avouent avoir subi des moqueries l'an dernier. Un phénomène qui peut mener à de véritables drames. La thérapeute française Emmanuelle Piquet a fait salle comble cette semaine à Saint-Imier. Sa méthode se concentre sur l'enfant victime et non pas sur le harceleur. Emmanuelle Piquet explique pourquoi.
Les études prouvent de façon très claire que c'est une petite minorité d'enfants harceleurs qui souffrent. La grande majorité des enfants harceleurs sont plutôt des enfants qui vont bien, qui sont plutôt des gamins sympas avec leurs amis, par exemple, plutôt sympas avec leurs profs, avec leurs parents. C'est des enfants qui vont bien, en fait. Et donc, eux ne sont pas en souffrance. Quand on n'est pas en souffrance dans une situation, eh ben, on n'a pas envie que cette situation change. En fait, tout ça est très logique. Au moment où il harcèle, l'enfant harcelant ne souffre pas du tout. Il est dans une émotion de plaisir pur. Le plaisir lié à sa toute-puissance, à l'impact qu'il a considérable sur le destin de quelqu'un d'autre, ce qui narcissiquement est très bon, en fait, hein, en tout cas en termes de sensations. Par ailleurs, il se sécurise par rapport à d'éventuels faits de harcèlement qui pourraient le concerner. Donc lui n'a aucun intérêt à ce qu'il change. Donc moi, je trouve que c'est du temps perdu, en fait, d'essayer de le convaincre de ça. Et c'est ce que prouvent les chiffres, hein, puisque depuis qu'on met en place, quand même, depuis une petite dizaine d'années, maintenant, beaucoup de méthodes dans ce sens-là, hein, qui visent à créer de l'empathie chez lui, ben, les chiffres restent dramatiquement stagnants.
À l'écoute, c'est d'RFJ, il est 18h10.
Sport. Les SR de Léman achèvent leur première partie de saison sur une double bonne note. Ils ont gagné le derby contre le FC Bienne, leader de Promotion League 5-1 hier soir à la Blancherie et sortent de la zone rouge. Les SRD sont désormais 14e à la trêve avec 2 points d'avance sur la barre. Malgré un début de saison compliqué, l'entraîneur Anthony Siroufo ne cache pas son envie de titiller le haut de tableau.
Non mais nous on se montre ambitieux, ceux qui nous suivent savent ce qu'on a fait, on a proposé du jeu, on a vraiment été efficace, je pense qu'on est la seule équipe de Promotion League qui s'y joue contre une Super League, peuvent les regarder droit dans les yeux parce qu'on a un style de jeu bien propre à nous, et malgré ça sur ces 6 premiers mois là de championnat, on a manqué d'efficacité et au classement on s'est retrouvé dans une situation compliquée, mais je le répète, le club à continuer à nous faire confiance, à nous le staff pour garder l'équipe, et puis ben, les joueurs ils ont bossé énormément et j'étais mal à l'aise par rapport à notre classement parce qu'ils ne méritaient pas d'être dans les deux derniers. Aujourd'hui on en sort, c'est le moindre mal, mais maintenant on est encore en dessous de nos attentes et on va mettre le bleu de chauffe pour remettre d'éléments au minimum où il doit se trouver. Il nous manque forcément un attaquant, donc ça on va faire le nécessaire pour aller le chercher et puis après on va prendre le temps. Là on a eu vraiment 6 mois un peu compliqués, on a bossé dur, on n'a pas trop envisagé la suite, maintenant on va se poser tranquillement avec cette victoire. Ça nous fait du bien, on va être un peu plus serein et je pense avec fierté on va aller chercher la position qu'on mérite et que tout le Jura mérite.
Et le HC Ajoie veut lui poursuivre sur sa lancée à Porrentruy. Les hockeyeurs jurassiens accueillent Lugano ce soir à 19h45. Après des défaites à Davos et Berne, ils veulent se relancer à la maison, là où ils restent sur 4 victoires de suite. Ajoie, Lugano, c'est une rencontre à vivre en direct sur RFJ dès 19h30 avec les commentaires de Michel Léoni et son consultant Yann Voya. Jonas Ugolini veut se faire un prénom sur le circuit du billard. Le jurassien de 18 ans vise 4 médailles d'or ce week-end à l'occasion des championnats de Suisse junior à Vétro en Valais. Lui qui possède déjà 4 titres nationaux à son palmarès entend marcher dans les traces de son papa, Patrick, 2 fois vice-champion de Suisse et 13 fois champion jurassien d'affilée. Il passera d'ailleurs dans la catégorie adulte dès l'année prochaine. Le citoyen de Kourou pourrait aussi donner un nouveau virage à sa passion en se mettant au snooker. Une variante du billard, Jonas Ugolini.
C'est une sorte de billard qui est pratiquée beaucoup en Angleterre. Ce qui change, c'est que la table elle est plus grande, les boules plus petites et il y a d'autres règles. J'ai pu jouer pendant 7h30 la dernière fois que mon papa a joué un tournoi en l'attendant. Et c'est de là que cette idée m'est venue. Et j'ai appris aussi il n'y a pas longtemps que les juniors, c'était jusqu'à 20-21 ans. Donc j'aurai potentiellement encore 2-3 années. Et puis voir où ça va me venir, puis pouvoir me concurrencer avec les autres juniors du snooker. Il faudra être plus précis et forcément avoir une autre visibilité de la table, mieux calculer les coups. Il faut tout mettre une autre force dans les coups et puis bien visionner la table.
Jonas Ugolini vient de faire son entrée en lice dans les championnats de Suisse junior de billard. C'est à Vétro, la compétition se poursuit tout le week-end. Je vous souhaite une bonne soirée et un très bon week-end.